et bienvenue chez l'Illustratrice Ambitieuse, le podcast qui t'aide à vivre de ton art. Moi, c'est Marie Borbel, illustratrice freelance et mentor business pour les artistes. Dans mes formations, ma newsletter et sur mes réseaux sociaux, j'aide les illustratrices et les illustrateurs débutants à fixer leur prix, à trouver leur style et même à progresser en dessin. Si tu veux devenir artiste pro, mais que tu ne sais pas par où commencer et que tu as peur de ne pas y arriver, branche tes écouteurs, t'es au bon endroit. Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Illustratrice Ambitieuse. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, j'ai envie de dire, parce que c'est un sujet qui vous touche toutes et tous, c'est la peur du démarchage. Et je sais que ça fait partie des choses qui vous bloquent tous et toutes de manière très régulière. Et c'est pour ça que j'ai un invité avec moi aujourd'hui pour en parler. Et je vous présente Simon. Salut Simon.
Salut Marie, merci beaucoup de me faire intervenir dans ton podcast pour partager ce message. Je suis vraiment friand en plus de cette démarche-là d'apporter mon regard sur la peur de démarcher parce que c'est quelque chose qui touche tous les entrepreneurs, tout milieu confondu, tout type d'expertise. Donc j'ai hâte qu'on commence.
Et ben moi aussi. Et avant qu'on fasse ça, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es ? Parce que tu parles de tous les entrepreneurs, nous ici on est plutôt entre artistes. Précisément des illustrateurs et des illustratrices, mais est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es ?
Bah, carrément, et en fait, mon domaine d'expertise, on va dire, ne se situe pas que dans l'entrepreneuriat en lui-même, mais je vais te partager un petit peu mon parcours rapidement. En gros, dans ma vie perso et dans l'entrepreneuriat plus particulièrement, je me suis rendu compte que le frein qu'avaient les gens principalement à avancer, bah, c'était un problème de mindset. C'était vraiment notre état d'esprit qui nous bloque, tu vois, nos peurs de faire quelque chose, nos peurs de passer à l'action, nos croyances qui nous limitent à faire quelque chose, à aller plus loin, à se donner les moyens d'aller au-delà. En fait, c'est ce qui nous limite dans notre vie perso et du coup dans l'entrepreneuriat ou dans notre société si on était salarié. Et en fait, c'est pour ça que je me suis spécialisé là-dedans. Donc, je me suis renseigné dans le domaine d'expertise qui est la PNL, programmation neurolinguistique. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais vu que David Laroche faisait ça, j'avais vu que Tony Robbins s'était passé par là aussi, et j'avais vu qu'eux, ils arrivaient à déclencher des passages à l'action chez les gens. Donc, je m'étais renseigné là-dessus, et c'est comme ça que je suis devenu, moi, coach mindset. Et du coup, par-dessus ça, j'ai fondé l'incubateur des Mindpreneurs. Mindpreneur pour mindset d'entrepreneur. Parce que je pense, et c'est ma vision à moi, que ce qui limite le plus les entrepreneurs, c'est pas forcément de la stratégie, de la méthode, etc., mais surtout de travailler sur l'entrepreneur lui-même pour développer l'entreprise.
Vous ne me voyez pas, mais je hoche la tête. Je hoche la tête très fort, c'est ça qui est dommage dans un podcast. Mais ok, merci pour cette présentation. Et tu as oublié de me dire que tu avais été artiste, si j'ai bien compris. J'ai vu passer tes stories vite fait cette semaine. Tu es aussi artiste.
C'est vrai, en fait, j'ai toujours voulu devenir entrepreneur par tous les moyens possibles. Donc, j'ai toujours rêvé d'avoir la bonne idée, de créer une start-up et tout ça. Mais à côté de ça, j'étais salarié parce que c'était la dure réalité de la vie. Et ça me suffisait pas. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains et tout ça. Donc, je suis devenu créateur de lampes. Donc, c'était de l'artisanat et de l'art parce que je donnais aussi pas mal de descriptions spécifiques sur les émotions que je transmets à travers ces lampes, etc. Et ça fait partie de mon fil conducteur qui m'a emmené vers le coaching aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où les gens qui achetaient mes lampes m'ont dit, tu te rends pas compte, Simon, de la force que ça m'amène chez moi, de la chaleur que t'apportes dans mon environnement, du fait de me dépasser moi-même. Et je me suis dit, waouh, l'impact est supplémentaire de ce que j'apporte comme œuvre. par rapport à ça, et je me suis dit, je veux aller encore plus dans de l'impact, et donc je suis allé vers le coaching. Ça a été mon point de bascule entre le salariat et l'entrepreneuriat coaching, quoi.
Et eh ben c'est top, parce que c'est un peu ce que je défends, c'est l'idée que quand on est artiste ou artisan, d'ailleurs je fais pas totalement de différence entre les deux, quand on est artiste ou artisan, on n'a souvent pas jamais eu le côté formation entrepreneur, on se dit pas qu'on est des entrepreneurs, on se dit pas qu'on a une entreprise, on est juste, on est artiste, on n'est pas entrepreneur. Et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important de faire justement ce lien dans la tête des gens, t'es artiste, ok, mais t'as une entreprise et une entreprise ça doit tourner. Ce qui nous amène de manière très smooth au sujet du jour, le démarchage. Parce que pour faire tourner une entreprise, il faut des clients. Sauf que pour avoir des clients, il faut démarcher. Et c'est là que ça se complique. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le démarchage, mais c'est surtout la peur du démarchage et comment la dépasser. Du coup, go Simon, la peur du démarchage, il y a quoi derrière ça? Ça vient d'où?
Ça vient d'où la peur du démarchage? En fait, ça vient de... Il y a hyper longtemps, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler cet aspect de la préhistoire et de tout ça et de comment en fait on survivait quand on était en groupe et on mourait si on n'était pas en groupe parce que en fait il fallait vraiment se soutenir là-dedans et en fait c'est très ancré en nous depuis très 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 longtemps. On a cette croyance que si jamais on est ridiculisé par les gens, si on est mis de côté, stigmatisé, à l'écart des autres, on risque rejeté. De mourir. Voilà, rejeté, on risque de mourir et donc on a ultra peur de faire des choses qui nous sortent de l'ordinaire, en fait, donc de sortir de nos zones de confort déjà de base, mais surtout s'il y a cette notion de on est perçu par les autres et qu'il y a un potentiel retour, un feedback extérieur des autres qui pourrait être négatif et nous faire sortir de ça, en fait. Et donc derrière la peur de démarcher, il y a un petit lot, en fait, d'autres peurs qui sont là, qui se mélangent, un peu comme la peur de la réussite, tu vois, il y a un lot d'autres peurs qui sont là, qui se mélangent. C'est à la fois la peur d'échouer alors qu'on s'est montré en étant allé voir d'autres personnes. C'est la peur de ne pas être perçu comme quelqu'un qui est idéal et qui fait les choses parfaitement quand il va démarcher quelqu'un. Donc un peu ce côté perfectionnisme qu'on essaye d'avoir. C'est la peur de ne pas être à la hauteur même si on obtient des clients grâce au démarchage. Enfin, il y a tout un autre truc derrière. C'est la comparaison par rapport aux autres. C'est la peur de déranger, la peur d'être rejeté. Mais en fait, tout converge vers cette peur du rejet. Cette peur finalement de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Et c'est ça qui nous bloque vraiment au fond du fond. Quoi.
Et est-ce que tu ne penses pas que justement chez les artistes et les illustrateurs et les illustratrices, il n'y a pas aussi un peu cette notion de si mon art est rejeté, comme mon art c'est ce que je suis, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, mais comme mon art c'est ce que je suis pour beaucoup de gens, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté on rejette mon art, on rejette moi?
Clairement, parce qu'on fait pas de distinction en fait entre les différentes casquettes qu'il y a. On a l'impression que quand on est artiste, si on nous dit non à même à une conversation, on nous dit non à une proposition, on nous dit non à quoi que ce soit, en fait on a l'impression que c'est nous qu'on rejette. Ou comme que tu dis, tu vois, si on dit non à ton art ou qu'on dit qu'on n'aime pas ton art, en fait c'est comme si on te stigmatisait toi, comme si c'était toi qu'on piquait, alors que pas du tout. Et en fait, on prend vachement pour soi. On fait pas l'effort. Enfin, c'est d'ailleurs très inconscient, mais on a du mal à ne pas prendre pour soi. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un des accords Toltec que tout le monde connaît, mais pourtant, c'est difficile de l'incarner.
Est-ce que tu peux préciser, parce que les accords Toltec, on n'en a jamais parlé sur ces podcasts. Refaire un petit point sur les accords Toltec? Parce que moi, je les connais, mais si tu peux faire un petit point pour les auditeurs et auditrices.
Eh bien, alors, je viens de le taper sur Internet parce que je ne me souviens pas de tous.
Que ta parole soit impeccable. Ne jamais rien prendre personnellement, ne pas faire de suppositions, et le quatrième, je sais plus.
Faire toujours de son mieux.
Oui.
Ok, du coup, j'ai envie d'aller un peu plus loin sur ces sujets-là, parce qu'il y a des choses qui sont attrait au cerveau et qui ne sont pas possibles telles quelles. Par exemple, quand on dit ne pas prendre pour soi, c'est un peu difficile parce qu'en fait on est tellement connecté avec les humains et en tant qu'être humain soi-même que c'est difficile de se dissocier des éléments. Par contre, donc je vais inviter les gens qui écoutent à aller plus loin dans la démarche et de se dire ok, qu'est-ce que je fais de ce que je viens de recevoir comme commentaire, comme critique par rapport à ça et comment je vais m'en servir d'un œil positif. Dans le sens, si je suis piqué à jour sur cette critique-là et pas sur une autre, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'est-ce que j'ai à protéger à ce moment-là? Pourquoi ça vient me toucher particulièrement? Parce qu'en fait, on reçoit des critiques toutes les 5 minutes, et il y en a plein qu'on qu'on ne s'en rend même pas compte, en fait, parce que ça ne nous touche pas. Par exemple, on va faire un exemple, on va digresser un peu, mais si Marie, je te dis, j'aime pas tes cheveux bleus, toi, tu t'en fous complètement, tu vois.
Il y a moyen, ouais.
Parce que t'as pas les cheveux bleus. Donc finalement, tu te sens pas concerné par ça. Donc tout de suite, tu l'as pas pris personnellement. Alors que si je te dis quelque chose qui te touche particulièrement, si je te dis, ben, t'es pas une bonne illustratrice, t'es pas une bonne entrepreneur, j'aime pas ton art, ah ben là, bam, ça va t'accabler. Alors qu'en fait, j'ai fait la même chose que si je t'avais dit, j'aime pas tes cheveux bleus, c'est juste que j'ai donné mon avis à moi, de mon regard à moi, et en fait, toi, t'as aucun. C'est indépendant de ta volonté à toi, tu vois.
Non, mais
Donc
ouais,
c'est
c'est en fait,
intéressant.
c'est ça, en fait, c'est toujours apprendre à qu'est-ce qui est dans mon domaine de compétences. Quand on reçoit une critique de quelqu'un qu'on a démarché, bah tu peux soit le prendre personnellement et être très triste et te dire je fais de la merde, je suis une merde et je vais plus jamais postuler nulle part, ou alors tu peux te dire bah très bien, cette personne m'a fait un retour, comment je peux m'en servir pour améliorer mon prochain démarchage. Et ça, c'est la différence entre prendre personnellement les choses et ne pas les prendre personnellement. Et puis te rappeler
Exactement.
que au final, si la personne t'a dit, t'a fait un retour, c'est qu'elle est quand même quelque part intéressée. Un éditeur ou un quelqu'un qui prend le temps de te faire un retour, ça veut dire, en tout cas dans le monde de l'illustration, corrige tout de suite ce que je viens de te pointer et renvoie-moi quelque chose dans un mois ou dans 2 semaines.
Ça, c'est quand on reçoit des critiques de gens qui sont pertinents.
Oui.
Mais par exemple, sur les réseaux socioux, ou quand on fait du démarchage, bah,
Oh,
des
mais
fois,
là, faut les envoyer
on va
buter les gens. Bloc, bloc, bloc. Ça, c'est ma politique.
Ah, ok. Ben, en fait, je voudrais expliquer un peu ce qui se passe derrière, enfin, dans leur imagination à eux, dans leur cerveau à eux. Il y a énormément de gens dans le monde qui sont en désintégration, on appelle ça. C'est-à-dire qu'ils sont pas heureux dans leur vie, ils sont pas bien, et leur manière de l'exprimer, ben, c'est de renvoyer ça à l'extérieur. Et donc, malheureusement, nous qui créons du contenu, qui montrons notre art, ben, en fait, on est les premières victimes de ça. Mais il faut vraiment faire cette distinction que ces gens-là, ils sont juste pas bien dans leur vie, ils envoient ça sur les gens. C'est pas nous véritablement qui viennent attaquer. C'est eux qui essayent d'exprimer leur malheur, en fait, dans ce sens-là.
Mais là, comme on parle de démarchage, c'est pour ça que je parlais des éditeurs, etc., parce qu'on parle de la peur du rejet, tout ça. Une critique est pas forcément négative à 100%.
C'est un
Et
feedback. C'est
ouais,
constructif. On peut le prendre de
exactement.
manière constructive.
Et petite aparté sur les gens qui critiquent sur Internet. Moi, je comprends qu'ils sont malheureux, je comprends que etc. Mais je sais aussi que j'ai pas à recevoir ça. Et donc, j'invite tout le monde à faire pareil. Moi, quand je reçois des critiques, pas des critiques bien construites, des gens qui écoutent le podcast, etc., mais ça a déjà arrivé que pour une faute d'orthographe, je me fasse incendier en DM et en commentaire. Ben, ces personnes-là, moi, j'ai pas à subir ça, je bloque. J'ai absolument zéro, zéro état d'âme à bloquer les gens sur les réseaux sociaux, j'en bloque tous les jours.
Ah ouais. Ah, j'aime bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est alimenter ça un peu. Genre,
Ah!
quelqu'un qui me fait une
Tu nourris
critique
Paul!
là-dessus. Ah ouais, en fait, ça me fait rire, et en plus, ça m'apporte de la visibilité finalement, tu vois. Donc, je m'en sers comme ça, sauf si ça me touche particulièrement. Et là, je peux bloquer, ou je peux supprimer le commentaire simplement, comme si ça n'avait pas existé. Et moi, j'aime bien utiliser ça, ou tu sais, renvoyer un petit cœur, ou des trucs comme ça, parce que, je sais pas, je trouve ça des fois tellement déplorable, et je me dis, bah, au moins, ça m'apporte de la visibilité, donc, tant mieux, je m'en sers. Et du coup, j'ai
Voilà.
envie de te faire un deuxième point sur un accord Toltec, qui est ne pas faire de suppositions. En réalité, on n'est pas capable, avec notre cerveau, de ne pas faire de suppositions. On est toujours en train de penser, de fluidifier cette pensée, surtout quand on a des pensées en arborescence, et ça, c'est souvent le cas quand on est artiste, entrepreneur, enfin, on part vraiment souvent dans tous les sens. Et ben, en fait, je vais inviter les gens à faire plus d'une supposition au lieu de ne pas en faire du tout.
Ouais.
Et surtout quand tu démarches quelqu'un et que tu reçois pas de que tu reçois que des vues par exemple et que tu reçois pas de message, tu as tendance à dire putain, j'ai pas envoyé le bon message, la personne, bah, je l'ai dérangée, ça s'est mal passé, etc.
Elle a
Ou
détesté mon art.
elle quoi?
Elle a détesté mon art.
Voilà, elle a pas aimé, et ben ça c'est qu'une première supposition. Et en fait, j'aime bien en faire plein, plein, plein. Et systématiquement en coaching, on fait ça. Je dis, OK, c'est quoi les autres suppositions pour lesquelles elles n'ont pas répondu, ces personnes? Ah, bah, elles avaient pas le temps. Ah, bah, elles ont regardé ça, puis il y a quelque chose qui les a dérangées sur l'instant. Ah, plein d'autres suppositions. Et en fait, quand les gens relancent, eh ben, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont bien fait de relancer parce que les gens les remercient en face d'avoir relancé parce qu'ils avaient oublié ou parce qu'il y avait autre chose. Et en fait, c'est là où tu dis, ah, bah, j'ai bien fait, quoi. Mais il faut passer le cap de le faire.
Ouais, et ça, on y reviendra parce que la relance, pour moi, c'est une des choses les plus importantes dans le démarchage. Et est-ce que tu peux, avant ça, tant qu'on est dans cette idée de qu'est-ce que c'est la peur du démarchage et qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des manifestations courantes, conscientes ou inconscientes, chez les illustrateurs et illustratrices, de manière plus générale, chez les gens qui démarchent?
Et bien, en fait, face à la peur, quoi qu'il en soit, on va éviter. Enfin, il y a un peu ce côté, soit on s'y confronte, soit on est paralysé, soit on va l'éviter. Et le truc qui revient le plus, je trouve, c'est de l'évitement inconscient. C'est pour ça que la plupart des entrepreneurs tombent dans la création de contenu et n'en sortent jamais.
J'aime beaucoup cette formulation.
Parce
de
que, en fait,
tomber dans la création de contenu comme si c'était un défaut, j'adore.
Pour moi, je vois tellement de gens perdre des années à créer du contenu sans que ça fonctionne, sans que ça développe leur compte, sans que ça fasse partie d'une stratégie plus globale et que ça ait en fait un sens et que ça amène du résultat, que j'ai besoin de le dire, quoi. En fait, ça, c'est un évitement. C'est-à-dire qu'on sait quelles sont les actions qu'il faut faire de manière essentielle et un coach va te les rappeler systématiquement ou quelqu'un qui est même dans le business ou je ne sais quoi va te dire il faudrait faire ça, etc. Et en fait, on le fait pas pour deux raisons. Soit parce qu'on n'est pas aligné dans la démarche de le faire, soit parce qu'on a des peurs qui nous empêchent de le faire. Et là, on tombe sur le deuxième point, tu vois. Cet aspect de « Ah, mais je dois me confronter à des personnes. Ah bah non, je préfère créer du contenu. Au moins, je me détends de loin. Je mets le combat beaucoup plus loin et j'attends que les gens viennent à moi. » Alors que le but est le même, c'est-à-dire qu'on veut créer une conversation, mais on souhaite que ce soit les autres qui l'amorcent et pas nous. Mm-mm. Et c'est hyper dommage parce que du coup, on donne le pouvoir d'action aux autres et pas à nous. Mm-mm. Donc ça, c'est un des phénomènes assez inconscients, c'est d'éviter de faire les actions essentielles en allant broder, en faisant d'autres actions qui ne sont pas du tout utiles ou nécessaires. Et là, j'ai parlé de la création de contenu, mais ça peut être aussi de refaire son logo, de refaire son identité visuelle. Surtout quand on est illustrateur, on a toujours envie de peaufiner plus.
Je sais pas si t'as déjà lu Denise de Fil-Thomas dans Get Rich Lucky Beach, et elle appelle ça du procrastine branding. Quand au lieu de démarcher, tu procrastines en faisant des trucs en disant ah non mais cette personne là, je la démarcherai quand j'aurai tant d'abonnés, que mon site sera propre, que j'aurai un beau formulaire pour accueillir tous les clients qui vont découler de ce démarchage. Et au final, au lieu de vraiment démarcher, envoyer un mail, être fixé, bah, tu te retrouves 3 mois plus tard à avoir refait tout ton site mais avoir toujours pas de nouveaux clients.
Mais c'est incroyable et c'est tout à fait ça. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est du coup de... Non, pardon, vas-y.
Et elle distingue deux procrastinations derrière ces stratégies d'évitement. Le procrasti branding, donc où tu refais tout ton branding, et le procrasti cleaning, où tu as soudain très 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 besoin de vider ton drive et atteindre la boîte mail zéro.
C'est fou, hein. C'est exactement ça. Après, on peut le retrouver aussi dans deux types de procrastination qui sont entre le passif et l'actif, c'est-à-dire que tu vas faire des trucs qui sont en dehors des actions que tu fais, des trucs qui vont combler du vide, comme scroller par exemple. Mm-hmm. Quand tu scrolles sur un Insta ou quand tu te mets à être dans des boucles comme ça d'actions qui ne sont pas du tout utiles, ça c'est symbole que tu es en train de vivre une émotion qui est inconfortable pour toi et donc que souvent il y a une peur derrière. Et en fait, c'est un bon regard à avoir là-dessus. Quand tu fais des actions qui ne sont pas celles que tu souhaites faire, et ben c'est sûrement que tu es en train d'être dans cette procrastination, dans cette peur effective, quoi. Mm-hmm.
Et du coup, on a parlé de faire autre chose, etc. Et comment est-ce qu'on fait justement pour en prendre conscience une fois qu'on se dit, on sait qu'on doit démarcher, on le fait pas parce qu'on a l'impression que c'est hyper important de refaire tout notre site avant. Comment tu fais le pont entre les deux?
Moi, ce que j'invite les gens à faire et ce qu'on fait systématiquement dans l'incubateur, par exemple, c'est de prendre du recul sur les éléments. Par exemple, chaque semaine, tu prends du recul et tu te dis, OK, ce que je fais là, est-ce que ça sert mon objectif? Et donc, de reclarifier l'objectif, forcément. Ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif? Et c'est là où tu vois où les actions ne sont pas alignées. Mm-hmm. Donc ça te donne le jauger, en fait, l'observation de ça. Et toi, tu voudrais qu'on aille plus loin, du coup, dans comment on ne procrastine plus, enfin, comment on démarche complètement, comment on change ce regard-là?
Non, bah ça on va y aller, mais en gros on va y aller dans les questions à venir. Mais du coup, en fait, moi c'est surtout ces stratégies, généralement elles sont complètement inconscientes.
Ouais.
Et comment est-ce que t'en prends conscience justement?
Ben pour moi c'est vraiment ça. Tu repars de ton objectif long terme ou ton objectif d'étape. Souvent, moi, j'aime bien décloisonner ça en étapes,
Oui.
décliner ça en étapes, et te dire, et tu remontes le fil jusqu'à aujourd'hui. Un peu comme quand tu as un tunnel de vente, par exemple. Tu te dis, je veux avoir un client, je veux 10 clients. Ça, c'est mon étape en ce moment pour vivre de mon activité, je veux 10 clients. On va faire du concret. Hein. 10 clients, pour ça, il faut que j'ai combien d'appels? Peut-être 15 appels, parce que j'ai un taux de conversion, enfin, sans aller dans le
Incroyable.
détail, voilà, de temps.
De
Ensuite, tu te dis,
60%
bah, pourquoi pas?
visiblement.
Bah, pas de temps, ouais, 15,
Ah
ouais,
si.
exact. Exact. Du coup, si je veux 15 appels, il me faut que je contacte tant de personnes. Pour avoir tant de personnes, soit ma stratégie d'acquisition, c'est de faire du contenu qui m'amène des conversations, soit c'est moi qui vais les déclencher en faisant de la prospection, et ça te donne le nombre de personnes à aller contacter. Et donc, quand tu fais ce déroulé-là complet, tu dis, OK, j'en suis où? Tu vois? Ça te permet d'avoir ce jaugé-là, cette prise de recul. Et si tu te dis, bah, purée, la semaine dernière, j'ai fait que être sur mon logo, etc., j'ai contacté personne, alors qu'il faut que je contacte 100 personnes, bah là, je suis en train de procrastiner activement ou passivement, mais il y a un red flag, quoi, tu vois.
Et c'est hyper important que tu dises ça, parler des objectifs, parce que ça, pour le coup, du coup, moi, j'accueille des élèves en mentorat en personnalisé. Et donc, du coup, le premier truc qu'on fait avant même de commencer à parler d'illustration, de démarchage, etc., c'est de bosser sur leur gars et de bosser sur les objectifs long terme et court terme. Donc, on part d'objectifs à 3 mois et on va jusqu'à des objectifs à 5 ans. Et qui peuvent bien entendu changer parce qu'on travaille une vision long terme, etc. Mais le but derrière ça, c'est de se rendre compte que, eh ben, si tu veux vivre, parce que souvent l'objectif c'est de vivre de l'illustration, et donc ça veut dire différentes choses en fonction des personnes, parce que toi et moi on n'a peut-être pas forcément les mêmes besoins en termes financiers, les mêmes envies de lifestyle, etc. Et attends, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et du coup, oui, on travaille les objectifs parce que c'est hyper facile de dire, bon, bah, si dans 3 mois je dois avoir fait tant de chiffres d'affaires, combien ça veut dire que je dois en faire par mois? Bah, ça veut dire, si je veux avoir fait 10 000 d'ici 3 mois, ça veut dire qu'il faut que j'en fasse 3 000 par mois. Combien ça veut dire en termes d'offres? Combien ça veut dire en termes de clients? Quelle offre à quel prix je vends? Etc., etc. Et en jouant sur ces variables-là, tu te rends compte de ce qu'il faut que tu fasses. Et si effectivement tu fais pas les actions pour arriver à ton objectif, eh ben il y a un problème.
Exactement. Et tu vois, je pense que, enfin, je sais pas si toi ça t'arrive encore. Moi, je suis en plein dedans à des moments, hein. Des fois, j'ai même peur de prospecter. Je repars dans des trucs comme ça. C'est pas parce que je suis coach, notamment dans le mindset, que ça m'arrive pas. Et mon regard, il est vraiment affiché sur la semaine d'après. Quand je reclarifie mes objectifs, je regarde ma semaine d'avant. Je me dis, mais purée, j'ai eu aucun appel dans la semaine. Et c'est là que je me rends compte de, mais purée, sinon t'es en train de partir en couille.
Et c'est bien de faire un point par semaine parce que bah justement, oui, bah, tu poses la question. Bon, bien sûr que ça m'arrive de complètement perdre de vue l'objectif parce que bah, j'ai eu de nouvelles idées, j'ai besoin de me reposer parce que ça arrive. Là, il y a des périodes dans la vie, là, je suis en train d'en traverser une où la vie c'est juste des montagnes russes et bah, t'as juste le temps de. Tu prends le wagon puis tu laisses les montagnes russes se tasser, mais bon, enfin, ça arrive en fait. Et c'est. Des fois, il y a juste que ça à faire, mais il y a aussi des fois où tu peux te dire, bon bah, montagne russe ou pas montagne russe, les clients ils vont pas arriver tout seuls. Et bah donc tu redéclenches des conversations, tu refais des stories de vente, tu re-envoies ton portfolio à 45 clients. Parce que c'est pas parce que, et aussi c'est ça que je voulais dire, et on en reparlera un peu après, c'est pas parce que tu as démarché un client une fois que tu peux pas le redémarcher dans 3 mois.
Exactement.
Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, en termes d'illustration, on vit dans un monde de l'image. Les magazines, ils ont toujours besoin d'images, les revues, les publicités, etc. Tout le monde a toujours besoin d'images nouvelles. Et il y a zéro raison. C'est pas parce qu'on vous a dit oui une fois en janvier qu'on va vous redire, qu'on vous a dit non, pardon, une fois en janvier qu'on va pas vous dire oui en mars.
Mais en fait, tu as totalement raison et ça fait d'autant plus sens dans cet aspect illustration et tout ça, parce que les gens, ils aiment certains types d'art et en fait, vous allez en créer constamment. Donc, s'ils disent non à quelque chose, donc j'imagine que ça peut être ça, hein, ça peut être de proposer directement une œuvre, un dessin ou je ne sais quoi. Si la personne dit non à quelque chose, elle ne dit non qu'à cette chose-là. Donc, c'est ultra pertinent de reproposer d'autres choses à d'autres moments plus tard. Déjà, ça veut dire qu'on prend des nouvelles de la personne et ça, c'est une marque d'attention énorme. Et en plus, potentiellement, du coup, ça crée une vraie connexion avec le client.
Exactement.
Donc, oui, carrément. C'est tout le but d'un CRM, hein, d'ailleurs. c'est de pouvoir garder le suivi de toutes les personnes avec qui on est en contact pour pouvoir entretenir cette relation.
On parlera du CRM un petit peu après parce que je pense que les auditeurs sont largués, ils ne savent pas ce que c'est. Mais avant ça, maintenant qu'on a bien mis en évidence ce que c'était, bah, du coup, la peur du démarchage, ce qu'il y avait derrière, comment ça se manifestait, maintenant, est-ce qu'on pourrait parler des conséquences? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on ne démarche pas? On en a déjà un petit peu parlé, mais disons-le franchement.
Eh ben, pour moi, ça mène à... Ah, je vais te donner un cercle vicieux dans lequel on tombe. C'est un peu le même cercle vicieux que quand on est dans la confusion ou quand on est dans le manque de résultats. C'est-à-dire que ne pas démarcher, clairement, ça amène pas de résultats. Donc, ça amène à de la déception de ne pas avoir réussi à atteindre notre objectif dont on parle, par exemple. Ça amène à du découragement, surtout qu'on fait énormément d'efforts. Donc, en fait, de faire des efforts, de ne pas avoir de résultats, ça nous épuise. Et au-delà de ça, ça nous crée de la comparaison vis-à-vis des gens pour qui ça fonctionne. Et donc, ça emmène quoi? Ça emmène une dévalorisation de soi parce qu'on a l'impression que c'est nous le problème. Un peu comme quand quelqu'un nous dirait non à notre illustration, on a l'impression que c'est nous et on se dévalorise. Ce qui amène à une perte d'estime personnelle et donc une perte de confiance soit en son projet, soit en ses capacités, en son art et tout ça. Et du coup, ça emmène à pas de résultat. Et en fait, ça fait que boucler comme ça. C'est une spirale infernale qui tombe vers le bas. Et les seuls moyens d'en sortir, c'est soit d'abandonner ton projet, soit d'être complètement épuisé, de faire un genre de burn-out parce que ça n'a pas fonctionné, redevenir salarié, enfin, c'est un enfer, quoi.
Il y a aussi une autre manière de sortir du cercle vicieux, c'est juste passer à l'action.
Voilà. Exactement.
Mais aussi, ouais, c'est hyper bien ce que tu as souligné sous forme de cercle vicieux parce que c'est d'étape en étape. Tu n'as pas de CA, mais tu as peur de démarcher. Tu ne démarches pas, donc tu n'as toujours pas de CA. T'as toujours pas de CA, donc t'es hyper stressé parce que t'as pas de CA. T'es hyper stressé, ça te bloque encore plus parce qu'on sait bien que la peur, c'est une émotion qui est paralysante, ça n'a jamais poussé personne à l'action à part pour courir, et encore, il y a des fois où tu peux pas courir. Donc ouais, vraiment, il y a ça, et comme tu n'arrives plus à passer à l'action parce que t'es paralysé, bah, tu perds ta confiance en toi parce que tu te dis, je suis nul, les autres, ils y arrivent, pourquoi j'y arrive pas, blablabla. Et au final, exactement comme tu l'as dit, cercle vicieux. Et donc, généralement, et puis tout simplement, quand tu démarches pas, t'as pas de nouveaux clients. Les gens, en fait, les réseaux sociaux, c'est un outil incroyable, mais ça a fait penser à beaucoup de gens que c'était ok de laisser les clients nous découvrir. C'est pas le job de nos clients de nous découvrir, le job de nos clients, c'est leur job. Le nôtre, c'est d'aller voir les clients et de leur dire, hey, je suis illustrateur, je suis illustratrice, tu veux pas acheter mes dessins? Et c'est ça, en fait. C'est notre job de faire savoir à nos clients qu'on existe et c'est pas le leur de nous trouver.
Exact. Du coup, j'ai envie de rajouter un petit truc sur cet aspect de cercle vicieux et de conséquences que ça peut amener. C'est de considérer vraiment le temps comme un ennemi. Parce que, je dis ça parce que la plupart des gens qui arrivent dans l'entrepreneuriat, à qui j'ai envie de proposer un accompagnement, par exemple, je vais leur dire, avec l'accompagnement, vous allez avancer, vous allez développer votre activité, vous allez potentiellement en vivre. Tout dépend de comment vous allez avancer dans cette démarche. Par contre, si vous continuez de votre côté, c'est pas comme si ça restait plat. C'est pas comme si dans un mois ou deux mois, ça allait être la même chose que là où on en est maintenant. Non, il y a le temps qui va arriver et le temps va faire que ça va décliner. C'est-à-dire que on va perdre notre confiance, tout ce qu'on a dit. Du coup, ça va être de plus en plus difficile de réussir avec de notre activité parce qu'on s'éloigne en fait. Le gap entre l'instant présent et le moment de réussir à en vivre s'éloigne à cause du temps qui passe, de la dévalorisation qu'on peut avoir, du manque de démarche, du manque de discipline, du manque de bonnes actions, etc. Et en fait, c'est de plus en plus dur si on passe pas l'action tout de suite. Je dis ça un peu pour essayer de pousser les gens à vraiment y aller dès maintenant, quoi. Dès que là, vous quittez le podcast, vous passez à l'action.
Je suis complètement d'accord. Et du coup, on passe à l'action. Ok, comment on fait pour dépasser sa peur? Est-ce que tu as des techniques à nous conseiller?
Bah, carrément. Déjà, j'ai envie de dire que pour dépasser sa peur, la peur, c'est souvent la perception qu'on a de cette peur-là. Parce qu'on peut dire, le phénomène classique pour dépasser une peur, c'est d'être exposé progressivement à cette peur, d'en prendre conscience, d'en avoir confiance et d'y aller petit à petit. Ça marche pour toutes les peurs. C'est vraiment la façon de faire la mieux. J'ai envie d'aller sur autre chose. J'ai envie d'aller sur changer la perception de ce qu'est cette peur-là et pour pouvoir se donner envie de le faire, en fait. Pas de se dire, il faut, on le fait dans la douleur et on force le truc jusqu'à ce que ça passe. On va se dire, comment on peut se donner l'envie de le faire? Et donc, pour moi, j'aimerais qu'on change la perception de ce que c'est que le démarchage pour de vrai. Et donc, premier point, prospecter, ce n'est pas vendre. Prospecter, c'est aller connecter avec des humains qui ont potentiellement besoin de ton aide. Moi, c'est ce que je me répète avant d'aller parler avec des personnes. C'est-à-dire, je me dis pas, je vais aller vendre quoi que ce soit, je vais juste aller connecter avec quelqu'un, et en fonction de la conversation que je vais avoir, soit je propose quelque chose, soit je propose pas. Mais le tout, c'est de créer une relation, en fait. C'est ça, la prospection, oui. C'est créer une relation authentique. Enfin, de la manière dont on le souhaite. Moi, j'aime l'authenticité, du coup, je l'estime comme ça. Mais en fait, c'est juste ça. Le passage à l'action, en fait, il est simple. C'est ce qu'on fait tous les jours. Mm-hmm. Tous les jours, on prospecte. Tous les jours, on va voir des gens, mais on prospecte pas notre art ou notre offre par rapport à ça. On prospecte peut-être du temps à passer avec des personnes, on prospecte de l'amitié, mais en fait, c'est la même chose. Mm-hmm. Tu vois?
Ah ouais, moi je suis complètement d'accord, et c'est l'idée de voir ça, de se dire les personnes ont besoin de moi et je vais aller leur proposer, et si elles ont pas besoin, et ben je ne ferai pas. C'est une manière vraiment de se décharger, et moi je sais que je vends beaucoup mieux en discussion. Je suis pas très bonne en création de contenu, j'aime pas trop ça. J'ai rien posté sur Insta depuis des mois. Ça m'empêche pas de parler tous les jours avec de potentiels élèves en DM. Ça m'empêche pas d'avoir des gens qui viennent me voir pour me dire, ah, au fait, j'avais vu ton dessin il y a 6 mois, ou d'anciens clients qui viennent me rechercher. Enfin voilà, je discute. Je suis beaucoup plus forte en discussion et en création de liens, surtout à l'écrit, plutôt que de me dire enfin la création de contenu.
Mais en fait, là j'aime bien ce que tu dis, parce que ça me fait ça me donne envie d'aller un peu plus loin là-dedans. C'est l'aspect, en fait, quand on est artiste ou quand on est entrepreneur, on est passionné par ce qu'on fait. Il y a vraiment cette connexion avec nos tripes, de ce qu'on a envie de montrer au monde. Et en fait, prospecter, c'est juste parler de notre passion avec quelqu'un qui est potentiellement passionné aussi. Mmh. Et donc, faut vraiment pas considérer la prospection comme de la douleur, comme quelque chose qu'il faut convertir et tout. Non, on va parler de ce qui nous passionne avec des gens qui sont passionnés. Et c'est cette énergie-là qui amène à ce que ça va plus loin dans la conversation, en fait.
Mmh, je suis complètement d'accord. Et donc, à part se dire « je discute », est-ce qu'il y a autre chose ? Moi, je sais que ce qui m'avait beaucoup aidé, ouais. C'était de créer des scripts et de m'entraîner devant mon miroir ou d'écrire 45 mails avant de trouver la bonne formulation que j'aimais bien, et puis après d'en faire un template, tout simplement. Parce que je démarchais beaucoup par mail pour l'illustration, mais du coup tout simplement avec un template, pour ceux qui savent pas, c'est un texte à trous, en gros, où tu complètes le nom de la personne que tu contactes, ce que t'aimes bien chez elle, le genre d'illu que tu proposes, et puis t'as plus à te prendre la tête. Ça allège beaucoup la charge mentale autour du démarchage, puisque c'est épuisant de démarcher, ça on le dit assez peu, mais moi personnellement, après une après-midi de démarchage, je suis rincée, mais au final, ça permet justement d'alléger cette charge.
Ok, c'est intéressant, parce que moi justement, maintenant, je suis de plus en plus en énergie d'aller démarcher, parce que je le considère plus comme quelque chose de coûteux, mais comme quelque chose qui me donne envie. C'est-à-dire que c'est créer du lien avec des gens, d'aller parler avec des gens, et ça me facilite vraiment l'accès, et même ça me donne de l'énergie d'être dans ces échanges. Un peu comme quand tu fais du coaching, tu vois, ça m'apporte
même
de l'énergie.
Même quand c'est par mail?
Ah, je démarche pas par mail.
Parce que pour les illustrations, on envoie souvent des mails à des magazines, des mails à des personnes qu'on connaît pas du tout, en fait. Et donc, du coup, tu te demandes, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est un mail? Ça, c'est un mail de contact général. Est-ce que ça va toucher la bonne personne? Donc, t'as plein de petites étapes à faire avant d'envoyer le bon mail à la bonne personne. Et donc, du coup, pour alléger justement cette charge-là, de créer des templates, de démarchage, de mail, ça, moi, ça m'aidait beaucoup.
Ouais, carrément. Bah, justement, on peut dire un truc là-dessus. En fait, là, c'est vrai que j'ai parlé d'un des points, mais j'en ai plein à évoquer. Ce que tu dis, c'est excellent, c'est-à-dire de définir une espèce de template, une stratégie, en fait, de démarchage. Quand tu le fais comme ça, ça te donne l'opportunité de faire confiance au process. Quand tu fais confiance au process, tu te décharges émotionnellement de ce qui peut arriver.
Ça, c'est génial.
Et donc, tu le fais beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et pour aller plus loin dans ce détail-là, comment on crée le bon process et le bon template qui nous convient, eh ben on devrait se mettre à la place de nos prospects et de se dire, comment est-ce que moi j'aimerais être démarché si j'étais cette personne. comment je me sentirais aligné dans cette démarche? Comment ça, j'aurais envie de répondre oui, en fait, à ce qu'il me propose? Et ben là, tu vas trouver tout de suite les solutions pour pouvoir le faire. Et quand tu vas envoyer, du coup, le mail dans ce sens-là, tu vas être aligné parce que tu t'es fait l'exercice de te mettre à la place de la personne. Et comme tu es aligné dans le fait de le faire, ben en fait, tu passes à l'action.
Oui,
donc ça, c'est la bonne stratégie. Le process, le template, ouais, très bien.
Et le fait de parler de process, c'est hyper important aussi parce que c'est aussi quelque chose que j'encourage mes élèves à mettre en place. Et j'aime bien la formulation que tu as de s'appuyer sur le process. Un process, je le dis pour les auditeurs et auditrices qui ne savent pas ce que c'est une suite d'étapes à suivre. C'est comme une recette de cuisine pour réaliser toutes les tâches de base dans son entreprise. Donc, ça peut être répondre à ses mails, répondre à ses DM, poster sur Insta. Moi, j'ai un process, par exemple, pour poster des épisodes de podcast, les enregistrer avec des invités. J'ai des process pour pas mal de choses. Et pour le démarchage, c'est hyper cool parce que j'ai toute une partie où c'est genre récolter 10 adresses mail correctes avec les noms et ce que j'aime chez ces personnes. Ensuite, c'est ouvrir Google et prendre mon template, personnaliser. Et après, tu dis, voilà. Et en fait, le fait d'avoir un process, ça t'empêche de réfléchir. Et quand tu le fais de manière un peu automatique et t'as tout préparé d'avance, c'est hyper, ça coule en fait. Et c'est très, très confortable. Et donc,
c'est ça.
Et ça permet surtout de mettre les peurs et tout ça à distance. Puisque c'est pas moi qui dois le faire, c'est le process. C'est le process qui dit que je dois faire ça, c'est pas à moi. Enfin, c'est quand j'étais aussi débutante et que je démarrais dans mon entreprise, j'aimais bien aussi distinguer, et tu me dis ce que t'en penses, j'aimais bien distinguer deux personnes. Marie, chef d'entreprise qui prenait les décisions, et Marie, employée, qui exécutait les décisions qui avaient été prises. Et le fait de faire cette espèce de dissociation de personnalité, ça permettait de pas être responsable des décisions qui avaient été prises quand j'étais dans mon mode employé et donc de pas avoir à me dire je démarche pour moi, je démarchais pas pour moi, je démarchais pour Marie, chef d'entreprise. Et inversement, quand je prenais une décision, j'étais là, ça me stressait pas parce que je me disais c'est pas moi qui vais le faire, c'est Marie employée.
Mais tu sais que c'est incroyable que tu parles de ça parce que c'est une vraie stratégie de PNL, ça. C'est-à-dire que tu te mets dans un état d'esprit spécifique comme si tu incarnais un rôle spécifique qui te permet de te libérer un accès à ton cerveau dans ce domaine-là, donc qui fait que tu es beaucoup plus efficace dans ce domaine-là. Par exemple, on l'utilise vachement pour rêver grand, par exemple. Tu vas te mettre dans un état émotionnel où tu es dans le fait de rêver grand et tu te l'attribues à ton projet pour débloquer tes limites, aller au-delà du plafond de verre, etc. Ensuite, tu retranscris ça dans la réalité en te mettant dans un rôle d'exécutant et ensuite, tu te mets dans un rôle de critique, tu vois, de développeur... comme si tu étais au cinéma, et en fait, tu viens challenger ce que l'exécutant a fait ou ce que l'exécutant a noté dans son plan d'action à travers cette distinction de rôle. Et du coup, ça développe tes capacités dans tous les domaines. Et ben en fait, on peut le faire aussi de cette manière-là sur la prospection. Ça donne de nouvelles idées, c'est super ça, Marie, de ouf.
Genre,
tu te mets dans l'exécution totale, tu te mets dans ce process, t'envoies les trucs à fond, et ensuite, tu reprends un rôle un peu de superviseur, de dire, ok, est-ce que les actions sont bien faites? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre de différent maintenant, etc. Et en fait, de passer de rôle en rôle, ça te décharge complètement des limites de ton cerveau et tu fais les choses de manière beaucoup plus fluide.
Eh bien, écoute, je ne savais pas que c'était de la PNL. Je suis bien contente de l'avoir appris. Il faudra que je me penche là-dessus parce que c'est vraiment un domaine que je ne connais pas du tout.
C'est incroyable. C'est comment débloquer les limites de notre cerveau, en fait. Comment réutiliser le cerveau comme un meilleur ami plutôt qu'un ennemi, tu vois.
Je vois.
J'aime beaucoup. Et du coup, pour aller dans...
Excuse-moi.
Ok. Du coup, pour aller dans ce sens-là, j'ai envie de changer un peu ce point de vue sur le démarchage de d'autres manières. Moi, ce que j'aime bien me répéter tout le temps, c'est de me dire que le suivi commercial, donc le fait de faire des relances ou de prospecter directement, en fait, c'est du prospect care. On parle souvent de customer care. Moi, je l'attribue au niveau prospect. C'est-à-dire qu'on prend soin des gens avant qu'ils deviennent clients. C'est-à-dire connecter avec eux, savoir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut leur offrir dès maintenant pour les faire avancer dans leur domaine, par exemple, ou quels sont le portfolio qu'on peut leur donner, quelles sont les éventuelles illustrations qu'on a de manière peut-être gratuite pour leur donner un avant-goût de ce que ça peut être, comme une bande-annonce.
Pas d'illustration gratuite.
Ah non, mais moi je voyais ça dans le sens donner des idées, tu vois.
Oui,
genre, tu sais, comme un portfolio. Donner un lot d'illustrations, pas à utiliser, mais comme ah, vous faites ça, tu vois, que les gens se rendent compte de ce que vous faites.
Oui. Bah, c'est ce qu'on fait généralement quand tu démarches. Tu dis, bah voilà, je vous ai mis en pièce jointe quelques illustrations représentatives de mon style, et tu dis, bah voilà, celles-ci, je peux vous les proposer pour tel type d'article. Généralement, dans les magazines, moi, je proposais mes articles, mes illus, pour une rubrique en particulier. Parce que justement, ça aide les gens à se projeter. Et donc, du coup, ben voilà, j'ai fait ça, ça aurait très bien pu aller pour illustrer tel article qui est paru récemment, etc., etc. Et donc, du coup, ça aide vachement à la personne en face à se projeter et à se dire, ah oui, c'est vrai que ça aurait été bien pour cet article. Et donc, il se souvient.
Ben voilà, c'est un peu ça que je voulais dire, dans le sens, comment tu vas faciliter le passage à l'action de la personne. Donc là, tu vois, tu vas le conseiller sur, ok, son domaine, c'est ça, ça correspond à tel type d'illustration. Est-ce que la personne serait partante d'aller plus loin, de potentiellement faire un échange, un appel, je ne sais pas quelle est la suite de l'action. Mais en tout cas, tu facilites le chemin, en fait. Mm-mm. Et ça, c'est ultra intéressant, c'est ultra prendre soin de la personne, en fait. Donc ça, c'était par rapport au côté démarchage. J'ai envie aussi de décloisonner un peu un truc qui est très souvent connecté à ça, c'est l'entretien de vente. Je ne sais pas comment sont les gens qui font d'illustration que tu accompagnes. Est-ce que systématiquement, il y a des entretiens de vente un petit peu,
comme ça des appels et tout ça? Quand t'es illustrateur, t'as des clients qui sont soit professionnels, donc des professionnels de l'édition, des magazines, la presse, la pub. Tu peux aussi avoir des clients particuliers, notamment quand tu fais des commandes, quand on passe des commandes et que tu personnalises des dessins, que tu fais des dessins complètement de commande. Donc, principalement pour les particuliers, t'as des appels de brief.
Ok. Bah, du coup, j'ai envie d'ajouter un truc là-dessus parce que je sais que c'est quelque chose qui limite, moi, les gens que j'accompagne. C'est l'entretien de vente. Ce n'est pas quelque chose de difficile à faire, c'est justement accompagner ton prospect à la meilleure décision pour lui ou pour elle. Mm-hmm. C'est pas du tout essayer de se vendre soi, essayer de vendre son art ou essayer de vendre un produit ou une offre, mais c'est plutôt connecter avec la personne, comprendre ses besoins, ses problématiques et lui exposer les choix qui s'exposent à lui et lui dire quels seraient les meilleurs et quelles seraient les conclusions positives ou négatives vis-à-vis de ses choix. Par exemple, le choix de ne rien faire, de continuer dans leur côté, ils vont pas développer leur activité, peut-être. Ils vont pas être assez, enfin développer leur visibilité, vu qu'on s'adresse à des illustrateurs qui vendent les illustrations dans le classe, sûrement. Donc ils continuent de leur côté, ça marche pas, c'est ça le choix. Le deuxième choix, ça peut être de prendre ces illustrations et de voir le bénéfice que ça apporte pour eux vis-à-vis de la situation qui vient d'être exposée dans l'entretien de vente. Et de penser les choses comme ça, ça nous évite de nous bloquer, ça nous fait descendre la pression qu'on peut se mettre en interne d'essayer de se vendre soi, qui est un exercice ultra difficile. Et en fait, ça nous permet de faciliter l'entretien comme ça nous permet de faciliter la prise de prospection, tu vois.
Je suis d'accord. Et puis surtout, si la personne n'a pas envie d'acheter, ça sert à... Enfin, ou est un peu réticente ou hésite ou quoi, ça sert absolument à rien de la forcer. Parce que si elle prend une décision et qu'elle la regrette, la collaboration va être abominable pour les deux parties. Ça va être horrible en tant que professionnel parce que tu vas devoir gérer un client chiant qui sera mécontent, qui sera déjà mécontent avant même d'avoir commencé la presta. Il va être tatillon sur les détails, ça va être relou. Et puis du côté du client, il aura l'impression, même si c'est pas vrai que tu l'as pas forcé, mais que tu l'as mis un petit coup de pression, il aura l'impression de s'être fait avoir dès le début, il sera pas content, il sera vraiment en train de scruter tes moindres faits et gestes pour savoir si t'es pas en train d'essayer de faire de la merde. Et puis ce sera pénible pour tout le monde. Donc vraiment, comme tu dis, on n'est pas en train d'essayer de se vendre, on est en train d'essayer que le client prenne la meilleure décision pour sa situation. Et ça peut être acheter ton illustration parce que il a un article ou parce que il veut faire un cadeau à son mec ou sa meuf, ou bien tout simplement ne pas acheter ou passer par quelque chose de moins cher si c'est le budget le problème, par exemple. C'est pour ça que avoir des illustrations personnalisables, pareil encore une fois, un template. Parce que, par exemple, ce qui se fait beaucoup, on enregistre ce podcast le jour de la Saint-Valentin. Je sais que ce qui se fait beaucoup, par exemple, c'est d'offrir un portrait personnalisé de couple pour la Saint-Valentin. Ça peut être très facile à faire, mais ça peut aussi être très cher. Enfin, je retire ce que je viens de dire. C'est pas très cher, mais ça peut vite valoir plusieurs centaines d'euros et ça les vaut. Et il y a des gens pour qui le prix sera un facteur bloquant, ce que je comprends. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre plusieurs centaines d'euros dans un portrait. Par contre, tu peux avoir un template avec déjà des corps et des têtes prédessinées et qui soit semi-personnalisable. Et là, tu gagnes du temps, tu peux proposer un tarif plus abordable à ton client et même si tu fais pas la grosse vente personnalisable à 500 balles, peut-être que tu feras une petite vente semi-personnalisée à 150. Et c'est déjà top. Donc, prendre la meilleure décision pour le client, des fois, c'est aussi te faciliter la vie pour les 2 ou 3 semaines, voire mois à venir.
Mais c'est sûr. En fait, la collaboration, si elle part sur quelque chose qui est bancal, ça devient n'importe quoi. C'est vraiment, ça devient de la merde. Alors que si elle part sur un vrai oui de chaque côté, c'est là que ça, il y a une vraie relation de confiance et c'est ça qui est pertinent, en fait. Et j'ai envie d'ajouter un truc là-dessus, c'est que quand on permet d'afficher, en fait, les choix qui sont possibles pour la personne et qu'elle puisse prendre la meilleure décision pour elle, on est vraiment tourné vers l'autre et pas vers soi. Et ça se sent. Ça se sent dans l'énergie qu'on transmet, ça se sent pour la personne. Et si la personne, elle dit non sur l'instant, elle va se souvenir de ça. Et très souvent, elle redéclenche un autre appel plus tard au moment où elle a l'argent ou au moment où c'est plus pertinent pour elle de le faire. Et elle se souvient de nous parce qu'elle aura passé un bon moment pendant cet entretien de vente. Et on n'aura pas essayé de lui vendre comme un requin, un marchand de tapis ou quoi. Non, on aurait été dans l'humain. Et ça change tout sur la relation.
Ça change vraiment tout. Un autre truc qui change tout, je suis complètement d'accord, et c'est ce que tu viens de dire qui m'y a fait penser, c'est que des fois, il faut apprendre à dire non et à certains démarchages. Parce que si tu commences une collab qui, toi, te fait moyennement kiffer, mais bon, il faut bien bouffer, mais bon, il me faut des sous, pareil, ça va être horrible, ça va être très désagréable. Et dire non à des clients, quand tu les sens moyennement et tout, des fois, ça déclenche un changement chez le client. Parce que il se dit... Elle veut pas de moi ou il veut pas de moi et ça les remet en cause et ils sont là mais en fait s'il te plaît si je veux vraiment un dessin de toi et je suis prêt à mettre le prix et blabla et blabla et des fois un projet qui nous paraissait moyen parce que on s'était sous-vendu parce que ou quoi et la personne en face change complètement d'attitude quand on le ou la refuse en lui disant bah désolé je pense que je suis pas la bonne personne enfin si voici ça c'est mon budget mon ego je t'ai proposé plein d'options que t'as pas accepté enfin voilà et la personne en face ça lui fait un espèce d'électrochoc positif, et au final, la vente se fait.
Ouais.
Et refuser des gens, c'est très, pour le démarche, je vous assure, la confiance en soi que ça donne, ça n'a aucun équivalent, mais même quand on a besoin du client, accepter une mission qu'on aime moyennement, c'est pareil. La collaboration part pas sur de bonnes bases. Mais refuser un client parce qu'on est moyennement emballé, ça, pour le coup, ça fait quelque chose sur la confiance en soi pour après qui est ouf. On n'est plus en position de... Je sais que la plupart des auditeurs et auditrices ont l'impression de supplier, en fait, quand ils démarchent. Donc, on n'est plus en position de je supplie, on est en position d'égalité avec le client et on est vraiment en mode bah, très bien, voyons ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que t'es d'accord? Oui, bah moi, je suis pas tout à fait d'accord, donc je suis désolée, on va pas faire affaire ensemble, même si c'est moi qui te proposais un truc à la base. Et là, bah, tu peux dire non, c'est hyper, hyper puissant, en fait.
Mais carrément. En fait, on va aller plus loin là-dedans, c'est la peur du manque te fait vibrer une énergie de « je m'accroche » et personne ne veut qu'on s'accroche à lui parce qu'on a l'impression de se faire tirer par le pied, tu vois. Ouais. C'est, bah là, on va faire... je fais aussi une anecdote vis-à-vis de la Saint-Valentin. C'est un peu le « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », tu vois. Et du coup, quand on est dans cette confiance en soi, c'est un peu l'illustration du bouquin « Fake it until you make it ». Ça a été un peu galvaudé dans le sens « il faut mentir maintenant sur ses résultats, sur ses trucs ». Ça, c'est hyper marketé et c'est pas du tout le bon truc. Mais le vrai sens de ce qu'il voulait dire derrière ça, c'est l'aspect « montre la confiance que tu as en toi et en la posture que tu as ». Ça va donner envie aux gens de te suivre et de prendre ce que tu as à offrir, en fait. Et ben, c'est clairement ça. C'est-à-dire que quand tu n'es pas prêt quand tu es prêt à dire non et à ne pas engager la vente ou l'accompagnement de la personne, et ben en fait, c'est là où tu deviens désirable pour la personne. Mmh. Et donc, c'est un phénomène qui est ultra clair. Donc, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est de garder en tête la mission pour laquelle vous faites ce que vous faites, en termes d'impact et en termes de valeur. Et dès que vous voyez que ça sort de ce cadre-là, ben vous dites non et vous expliquez pourquoi. Et là, souvent, la personne, elle va essayer de se justifier et elle va essayer de rattraper les wagons. Et c'est super intéressant parce qu'on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir dans cet échange. Et ça, je trouve ça fascinant.
Et sans parler de pouvoir, on reprend son pouvoir. Pas forcément qu'on a un pouvoir sur l'autre. Mais plus, vraiment, on se remet en position d'être aussi puissant que le client en face.
C'est clair. On n'a pas un pouvoir sur l'autre à aucun moment. C'est plus, on reprend ce qui nous appartient, en fait. Alors que quand on est dans cette énergie de manque, c'est comme si on laissait le pouvoir à l'autre tout le temps. Et donc, c'est à lui de décider si oui ou non, il nous tue ou pas, d'ailleurs. Il le voit comme ça, en face.
Quelle horreur.
C'est vraiment ça.
Je l'avais jamais vu comme ça.
C'est vraiment, c'est pour ça que ça donne pas envie, quoi. C'est... du coup, j'ai envie de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect dire non. Quand on dit non à ton art, on a l'impression qu'on se dit non à soi. Bah, c'est pareil pour les propositions. Quand on est dans le démarchage, là, on revient sur le démarchage pur, sur la prospection. Quand quelqu'un te dit non à ce que tu veux proposer, donc à un appel de vente potentiel, à un temps d'échange ou je ne sais quoi, il ne dit non qu'à la proposition. Et là, nous, on en fait des caisses quand on parle de prospection. On a l'impression que ça nous, que ça des choses sur nous, etc. Eh ben, pas du tout. J'avais envie de, d'aller sur le terrain de quand vous proposez, par exemple, à vos amis. Ah, ça bug un peu, non?
Non, je t'entends. Ah non, c'est bon. Je suis en train de t'écouter. C'est juste que je suis très immobile et que je t'écoute.
Ah, d'accord. Eh bien, ce que je disais, c'est que quand tu dis, tu proposes, par exemple, à tes amis d'aller au cinéma, tu fais une proposition et parmi eux, il y en a qui disent non. Eh ben, on s'est jamais fait un sans-dent du fait qu'ils ont dit non. On s'est toujours dit, bah, ok, il aime pas le film, il aime pas ce qu'on va proposer, mais ça ne nous empêche pas de reproposer plus tard. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression, on n'est pas en survie. Eh ben, là, c'est pareil dans la prospection. Quand quelqu'un nous dit non, il dit non qu'à la proposition, il dit pas non à nous, il dit pas non à la relation. Donc, on est toujours ouvert à rester connecté.
Et il dit pas non pour toujours.
Et il dit pas non pour toujours, carrément.
Il y a des gens qui disent non pour toujours. Mais, il y a des gens pour qui c'est non, non, et là, du coup, on les raye de notre liste, mais il y a des gens qui disent, bah non, désolé, pas maintenant, ou recontactez-moi dans 6 mois, ou des trucs comme ça, et là, ça veut dire recontactez-moi dans 6 mois.
Exact. Et bien souvent, les lus ou les vus, c'est ça aussi, hein. C'est, bah, des fois, ils peuvent pas avoir le temps, et ben, ça empêche pas qu'on peut les recontacter. Mm-hmm. Par rapport à tout ça. Et ce que j'ai envie de dire aussi, du coup, par rapport à ce qu'on a dit sur la posture, la confiance en soi et tout ça, j'aimerais qu'on change un peu de mindset sur ce pourquoi on fait ce qu'on fait quand on fait des échanges, des prospections et tout ça, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin de ces clients-là, parce que nous, on a 1000 autres solutions pour vivre notre activité, on peut redevenir salarié si on le souhaite. Par contre, eux, ils ont absolument besoin de nous. Quelqu'un qui a un magazine, qui a besoin d'illustrations pour développer sa visibilité, ben, il a besoin de ces illustrations, donc il a besoin de vous. Et donc ça, c'est vraiment à garder en tête quand on fait de la prospection. C'est qu'on n'est pas là en train d'essayer de se vendre totalement soi, on est en train d'apporter quelque chose que la personne a besoin vraiment, en fait.
Je suis d'accord. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai assisté à une conférence, pas cette année, mais l'an dernier au Festival d'Angoulême, qui est le gros festival en France de la bande dessinée, même en Europe. Et j'ai assisté à une conférence d'un agent d'illustrateur et qui disait, en fait, on a toujours l'impression que quand on démarche des éditeurs, là je parle plus pour le côté, on démarche des éditeurs, on veut illustrer des BD, on veut illustrer des couvertures de romans. Quand on démarche des éditeurs, on a toujours l'impression d'être en posture de faiblesse. Mais en fait, les éditeurs, ils ont besoin qu'on leur envoie des propositions de BD, ils ont besoin qu'on leur fasse des propositions de livres, ils ont besoin d'illustrateurs pour illustrer des couvertures. Parce que le marché du livre en France, il est hyper vivant. Et ils ont besoin de propositions. Et même si parfois, ils trouvent quelque chose de moyen, il y a des fois où ils prennent quelque chose qu'ils trouvent moyen parce qu'ils ont besoin de ce livre qui sort. Qu'un livre sorte à ce moment-là dans leur stratégie de développement d'entreprise. Et ça m'a vraiment aidé à me dire, mais en fait, les éditeurs, c'est des gens comme les autres, ils ont des besoins et il suffit de se pointer au bon moment avec la bonne proposition et en fait, tu y arrives, quoi.
Exactement. Et du coup, j'ai envie d'aller encore plus loin. Ça m'amène une métaphore que j'ai envie de te partager, que j'utilise vachement en coaching. C'est cet aspect que, des fois, tu peux te retrouver... Enfin, j'aime bien se dire ça. T'es dans le désert, tu vois quelqu'un qui meurt de soif. Et toi, tes illustrations, en fait, c'est des bouteilles d'eau à ce moment-là. T'as plein de bouteilles d'eau avec toi. Et tu vois cette personne qui meurt de soif. Elle en a besoin de ce qu'on a à proposer. Et si tu vas lui proposer cette bouteille d'eau, bah, ça se peut qu'on soit trompé. Ça se peut que finalement, le gars, en fait, il était juste en train de prendre le soleil. Il n'était pas du tout en train de mourir de soif. Il va dire, bah non, merci, je prends le soleil. Et limite, tu lui dis, bah ok, viens, on prend le soleil tous les deux, c'est une bonne conversation, et en fait, on s'est pas grillé tous les deux. Mais à la fois, il est en train de mourir de soif, et de lui proposer une bouteille d'eau, bah ça révolutionne sa vie. Et ben c'est ça, en fait, qu'on peut voir dans la prospection. C'est vraiment cet aspect, croire en ce qu'on propose, et se dire qu'en fait, les gens, ils en ont besoin, en fait. Et limite, si on veut aller encore plus loin là-dedans, de ne pas proposer cette bouteille d'eau à quelqu'un qui meurt de soif, c'est de la non-assistance à personne en danger, c'est de l'égoïsme pur, et donc il faut y aller.
Moralité, voilà, proposer vos illustrations, vous êtes des égoïstes.
Voilà.
J'adore.
Bon, c'est pas pour faire culpabiliser tout le monde, mais moi je me dis ça. Par exemple, quand je suis pas motivé, je suis un peu dans des downs à des moments, comme tu l'as dit, quand on fait des up et down, on a toujours ça dans l'entrepreneuriat. je me bascule, je switch mon mindset en me disant ça. Je me dis, mais si jamais je continue pas de développer ce que je fais, il y a potentiellement des gens qui vivront jamais de leur activité, qui du coup redeviendront salariés, s'épuiseront, feront des burn-out, partiront en dépression, ça va empêcher leur entourage de se développer aussi. Et quand je me vois ça, je me dis, mais allez, j'y vais, quoi, je vais aller sauver ces gens. Mais ça, c'est un peu mon côté
C'est
sauveur.
Batman.
J'appuie. Ouais, c'est ça. Moi, ça marche fort avec moi, donc je l'utilise, en fait.
Je sais, ouais, je me demande si ça marche pour l'illustration, parce que du coup, effectivement, on a tendance à considérer que c'est pas essentiel, même si bon, j'ai mon avis sur la question, c'est pas du tout le sujet de cet épisode, mais oui, effectivement, considérer que la personne en face a vraiment besoin de vos illustrations pour bah, développer sa clientèle, pour illustrer son article, et que si vous n'êtes pas là, ou aucun illustrateur, parce que visiblement, enfin, voilà, si vous n'êtes pas là, et ben l'article ne sera pas illustré, et puis le journal, il sera moins bien, et donc des gens vont perdre leur boulot, etc., etc.
Ouais.
Donc, peut-être, voilà, s'inventer une histoire qui fait que le démarchage, c'est plus de la supplique, c'est un service, tout simplement.
Exactement. Et donc ça, c'est croire en ce qu'on propose. Et on en revient tout le temps à ça. Un peu comme l'avait dit, tu sais, Michel Aguilar, quand on était au Bichot, là. Vraiment cet aspect, quand tu as un... Il avait dit comment? C'était quand il y a le cancer qui est
Avoir une
là et que
mission,
tu remets le
incarner une
cancer.
mission.
Voilà, t'incarnes une mission, t'y vas quoi. Bah là, c'est exactement la même chose.
Je pense que je parle de cette conférence tous les 2 épisodes. Je pense que cette
Ouais,
conférence, c'est je pense que je m'en souviens encore quasiment mot pour mot. J'ai une bonne mémoire, c'est vrai, mais elle m'a vraiment marqué.
bah, en plus, c'était pur sur la prospection, tu vois, donc ça fait vraiment sens. On devrait le réinviter, Michel Aguilar, dans ton podcast.
Je vais voir si j'ose.
Il faut, tu rendrais service à énormément de gens, tu leur permettrais de vivre heureux. Au lieu de ça, c'est égoïste de ne pas le faire. Pas du tout. On part trop loin.
Et du coup, pour faciliter le démarchage, est-ce que tu peux nous parler de certains outils? Tu as parlé d'un CRM tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un CRM et comment est-ce qu'on le met en place?
Ok. Un CRM, je ne sais plus exactement de quoi c'est l'acronyme, mais en gros, c'est un tableur
Crois
dans
que c'est
lequel tu vas avancer. Pardon?
Customer Relationship Manager ou quelque chose comme ça.
Ben voilà, parfait. Ben en gros, pour moi, c'est un tableau que j'ai sur Notion, ultra basique, dans lequel je renseigne les conversations que j'ai avec toutes les personnes que ça me fait kiffer d'accompagner. Et en fait, je regarde l'évolution de là où la personne en est jusqu'à devenir cliente chez moi. Par exemple, c'est comme ça que j'ai créé une formation en ligne gratuite, tu vois, au démarrage. C'est que je me suis rendu compte les gens avaient des besoins petit à petit, un peu comme si tu étais illustrateur, ben, tu as besoin de montrer ton portfolio. Ben, tu peux faire des jalons comme ça. Pour dire, bah, ok, cette personne que j'ai en conversation, bah, tiens, je lui ai envoyé mon portfolio, ensuite je lui ai envoyé ci, ça, donc là c'est le bon moment de lui proposer un appel. Bah, en fait, ça fait ce suivi-là. Ça permet d'avoir une structure qui nous permet de voir où on en est dans la relation avec nos prospects.
Donc, par exemple, ça peut se manifester sous la forme bah, nom, prénom de la personne, le lien de contact, que ce soit téléphone ou email. Ensuite, tu mets ben bah, je l'ai tu te mets une note, genre j'ai envoyé un mail, à quelle date, la date où je dois relancer cette personne, généralement une semaine après, première relance, deuxième relance, et ça permet de voir où est-ce qu'on en est, s'il y a des notes. Par exemple, cette personne m'a répondu, n'a pas répondu. Donc, tu peux marquer n'a pas répondu, n'a pas répondu, n'a pas répondu, ou tu peux aussi mettre cette personne m'a répondu, qu'elle n'était pas intéressée, mais de pas hésiter à lui renvoyer son portfolio dans 3 mois. La personne a répondu non merci, mais je garde votre contact. Ça, pour moi, ça veut dire bah, lui renvoyer un portfolio le mois prochain. Parce qu'il n'y a pas eu d'autres commentaires. Donc, ça permet de justement bah, garder en. Visuellement déjà de voir combien de personnes t'as contacté, parce que tu peux avoir l'impression ouais moi je démarche énormément et en fait tu te rends compte au bout de la semaine que t'as démarché 2 personnes, ça fait 8 par mois, c'est pas ouf, mais en plus ça te permet de garder en mémoire qui tu as contacté, qui tu dois relancer, qui tu dois relancer une deuxième fois et à qui en gros rayer de ta liste.
Exactement. Et en plus, comme tu dis, ça donne un aspect de repêchage possible. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit bah non, je suis pas intéressé, et ben en fait, tu peux continuer la conversation en lui demandant bah ok, de quoi avez-vous besoin? Et ça renclenche vers quelque chose. et potentiellement tu lui proposes une illustration dans un certain genre pour son magazine, ben si la personne répond à en disant ben justement moi j'ai pas besoin de ce type d'illustration, j'ai besoin d'un autre type, et ben on peut refaire une proposition qui là sera potentiellement acceptée. Et en fait on a ce regard, on a cette prise de recul grâce au CRM de se dire où est-ce qu'on en est et de pas perdre en fait les relations concrètes, parce que très souvent on parle et on met pas dans le CRM et du coup on n'y revient jamais et ce sont des gens qui sont perdus totalement, quoi.
Ouais. Et généralement, les gens aussi qui viennent en disant ah, je suis intéressé et tout, le fait de pas noter leur nom, de juste leur réécrire et tout, ça, enfin, il y a plein de fois où juste la conversation est entamée par la personne en face et où l'opportunité n'est pas saisie par l'illustrateur ou l'illustratrice. Ça, je le vois assez souvent chez mes élèves. Donc, oui, elle m'a dit que pour m'écrire qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais et que est-ce que je vendais des affiches? Bah, comme je vends pas encore d'affiches, je lui ai dit non. Je dis, mais pardon! Mais pardon, tu lui as dit non alors qu'elle voulait t'acheter quelque chose, mais tu t'en fous, tu te sors les doigts, tu te démerdes, tu fais une affiche, tu vas chez l'imprimeur, tu l'imprimes toute seule, je sais pas, tu lui dis oui et tu trouves la solution après. Mais tu lui dis oui. Quand quelqu'un veut t'acheter quelque chose, tu lui dis oui. Et surtout, ou alors tu lui dis, bah désolé, pas tout de suite, mais je garde ton contact précieusement et je m'arrange pour avoir quelque chose d'ici 3 semaines et à ce moment-là, je serai prête, quoi. Mais parce que elle avait pas de boutique, pas de moyen de paiement en ligne, blablabla, elle s'est dit bah non, je peux pas. Alors qu'il y a toujours moyen de faire plus simple.
Ou alors tu fais un partenariat avec une amie qui fait des affiches et qui elle te renvoie des clients qui veulent des illustrations pures. Mm-hmm. Tu vois un peu de ce truc dans ce sens-là quand on n'aime pas faire le truc, c'est toujours donner une opportunité à la personne avec qui on est. Ça alimente la relation de manière très forte. De se dire, bah, moi, je ne peux pas. Par contre, je sais te présenter quelqu'un pour ça. Bah là, waouh, ça fait un effet waouh auprès de la personne.
Mm-hmm. J'ai 2-3 personnes à qui je renvoie les clients. Est-ce que tu fais ça? Non, moi, j'aime pas faire ça. Par contre, va voir une telle. Elles le font. Et non seulement ça nourrit tes amitiés avec des clientes ou des amis, enfin, d'autres illustrateurs, des collègues, c'est le mot que je cherchais. Mais en plus, la personne qui est venue te voir en premier, elle garde ça en tête. Elle sait que tu sais dire non, elle sait que t'es pas désespéré, donc ça lui donne encore plus envie de travailler avec toi. Après, pour faciliter le démarchage, j'aimerais qu'on parle un petit peu des plateformes de mise en relation. Je pense notamment au truc de type Malt, ou je sais plus comment elle s'appelle, l'autre. Mais ça peut marcher. Qu'est-ce que t'en penses?
Eh ben, moi, j'utilise pas du tout Malt ou des plateformes de mise en relation. Moi, en termes de prospection, tu veux dire?
Ouais. Est-ce que tu penses qu'avoir un profil sur ce genre de plateforme, c'est utile pour le démarchage?
Ah, d'accord. Ah, dans le sens, je sais pas si on peut connecter avec d'autres personnes sur Malt et tout le tralala. Moi, j'ai l'impression que les gens qui se mettent sur ce genre de plateforme-là, ils espèrent que des gens viennent les voir de par eux-mêmes. Donc, ça donne une tendance à la passivité et donc je suis pas forcément d'accord avec ça. Sauf que si jamais ça permet d'aller contacter des personnes qui sont inscrites aussi sur le site, ben, carrément, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pas en multipliant les plateformes et en y étant qu'on va obtenir plus de personnes. Ce qui compte, c'est de passer à l'action sur chacune des plateformes dans lesquelles on est. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire aux gens de prioriser une plateforme et de l'exploiter à fond, comme par exemple Insta, et d'aller démarcher soi-même des personnes, ou LinkedIn ou Facebook, mais démarcher des personnes aussi, et pas attendre que les gens viennent à nous. C'est vraiment cette philosophie-là, en fait, qui est au-delà de la plateforme en elle-même.
Je suis contente que tu aies dit ça sur la notion de passivité sur les plateformes. Et moi, je n'utilise plus de plateforme, j'en ai utilisé au début, et ce que j'aimais pas, c'était que les gens venaient faire leur marché, en fait. Ils étaient pas là pour mon style, ils étaient pas là pour mon trait, ils étaient pas là parce qu'ils aimaient bien la personnalité de mes élus, ils étaient là pour le prix le plus bas. Et donc, ça m'était arrivé de dire, bah, à mes clients, bah, ok, quel est votre budget, et de me faire engueuler parce que, ouais, quand vous dites ça, ça veut dire que vous faites les prix à la tête du client. Je dis, bah, non, en fait, c'est juste pour m'assurer que vous êtes sérieux et que vous êtes pas en train de me demander une illustration à 100 balles, quoi. Et ça s'était pas très bien passé. Et j'avais quitté, je pense, Malte un peu après. Parce qu'en fait, comme tu dis, c'est la passivité. T'as tous les freelances qui sont là, un peu comme si on était interchangeables. Et ça, c'est hyper... pour la confiance en soi, c'est nul. Pour le mindset, c'est vraiment pas ouf. Parce que tu dis, bah ouais, machin, il le fait mieux que moi et moins cher. Merde. Et c'est vraiment pas ouf. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, fuyez ces plateformes.
C'est clair. Ou alors, faut vraiment faire valoir sa singularité, son unicité à soi, et de ne plus du tout se comparer, parce qu'on est dans des univers différents, et personne ne peut faire mieux que soi, parce que c'est soi-même, en fait.
C'est carrément.
Et
clair.
d'ailleurs, ça m'amène à une autre prise de conscience sur ce sujet-là. C'est vraiment cet aspect que, en fait, les gens, ils ont peur de venir nous voir autant que nous, on a peur d'aller se confronter à eux en
Ça, c'est
prospection.
super vrai.
Et parce qu'en fait, on est des humains. Donc, on est régi par les mêmes lois. Et donc, partant de ce principe-là, bah, au lieu d'attendre que les gens viennent à nous, alors que c'est difficile à faire pour eux, bah, autant que ce soit à nous de le faire, en fait. On a toujours, encore une fois, ce pouvoir d'action.
Je suis complètement d'accord. Et je pense qu'on a commencé à faire le tour sur le démarchage. Est-ce que tu peux nous donner, dernière question, les do's and don'ts, tes meilleurs conseils pour bien démarcher, notamment mindset, et les erreurs à éviter?
Ok. Bah là, on en a déjà dit pas mal quand même qui aurait pu être mis dans cette catégorie. Je peux ajouter deux trucs. Là, je dirais par exemple de considérer vraiment un prospect comme un client. En fait, c'est-à-dire commencer à l'accompagner ou à lui proposer des choses avant même qu'il soit client. C'est donc ce côté prospect care, on y revient, mais on peut le marquer de ce sens-là. Et un autre truc qui est vraiment ultime et que je conseille à tous, c'est comme quand tu fais une conférence, tu sais que quand tu veux te mettre devant un public, en fait on a peur, c'est les mêmes peurs qui sont régies par ça, cette peur du rejet, de ne pas être aimé, d'être ridiculisé, etc. C'est la même peur que quand on va essayer de prospecter. Et en fait, on les obtient, ces peurs-là, parce qu'on met le regard sur soi, on met l'attention sur soi et sur comment on peut être perçu des autres. Et ça nous paralyse totalement. Et moi, systématiquement, quand je coache des gens à faire de la prise de parole en public ou des trucs comme ça, je leur dis, ne mettez pas l'attention sur vous, mettez l'attention sur les autres et sur comment vous allez pouvoir les impacter, comment vous allez pouvoir transmettre votre message, apporter ce que vous pouvez apporter. Et de faire ça, de faire ce switch de mindset, et ben en fait, on passe à l'action, on y va, et on y va avec de la confiance, avec de l'énergie. Ça me fait même monter les poils de parler comme ça. Genre, ça change tout de ouf, quoi. Donc voilà, ne pas mettre l'attention sur soi, de mettre l'attention sur l'autre et de réussir à lui apporter ce qu'il a besoin à cette personne. Ça, c'est pour le 12. Et le don't, les erreurs à éviter, bah de ne pas prospecter, tout simplement, d'être dans la passivité, de penser qu'il ne faut pas relancer, alors qu'en
Ah,
fait,
ne
il y
pas
a même des
relancer, pour moi,
études.
c'est la plus grosse erreur.
Voilà. En
T'as
fait,
dit
il y a
de quoi?
même
Il y a
des
des
études.
études?
Ouais, il y a une étude qui était sortie chez HubSpot, je crois, comme ça, ou je sais plus si je me trompe de plateforme. Qui disait qu'en fait, les gens prenaient un accompagnement qu'après avoir été relancés genre 5 fois. Et que c'était le truc normal, après avoir eu un appel d'ailleurs. Et donc, c'est le phénomène normal. Donc, n'hésitez pas à relancer en fait. N'hésitez pas, faut y aller, faut y aller. Et c'est juste prendre soin de la personne. Et imaginez-vous à la place de quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose. Vous êtes prospect de cette personne. Elle vous relance pas. C'est-à-dire qu'elle tient pas à vous en fait. Ben là, c'est pareil. Là, si vous tenez à eux, bah vous les relancez parce que ce que vous leur proposez, c'est un truc qui va révolutionner leur vie. Donc, faut le voir comme ça, en fait. Et voilà. Donc, cette erreur, c'est ça. Et si on peut rajouter d'autres erreurs, c'est de ne pas croire en son produit, de ne pas croire en ce qu'on fait, de ne pas croire en son projet. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui nous limite totalement. Et donc, à l'inverse, le 12 de ça, ce serait vraiment de croire en soi, de croire en ce qu'on apporte, à sa singularité quand on est dans de l'art. Les gens en ont besoin. Les gens en ont vraiment besoin.
Ouais, c'est de pas considérer que l'art est inutile et qu'on a. Après, en tant que coach mindset, là, on sort un petit peu du démarchage, mais quelqu'un qui n'a jamais fait aucune vente, qui se dit que ses dessins sont refusés de partout et tout, qu'est-ce que tu lui dis pour réussir justement à se dire c'est pas mes dessins, c'est juste que ça a pas encore marché.
Eh ben, j'irai le voir, j'irai ça, j'irai comprendre avec lui pourquoi ça ne fait pas ça. Et très souvent, c'est parce que les gens essayent de copier des choses qui ne leur correspondent pas. Ils sont pas dans. Putain, ça va faire sens avec le deuxième podcast qu'on veut faire. Ils ne sont pas dans leur alignement à eux. Ils ne sont pas en train d'exprimer leur vraie valeur, leur vraie unicité à eux. Et ils sont en train de copier des petits trucs, donc moins bien. Ils ont pas la même énergie, etc. Et ça se ressent pas, en fait, ce truc. Ça fait pas vibrer. Parce qu'ils essaient justement de gagner leur vie d'un truc dans un domaine. Alors que quand ils prennent conscience de leur force, de leurs caractéristiques, de ce qu'ils sont vraiment et qu'ils expriment ça dans leur art, ben en fait, ça marche, en fait. C'est là que ça marche. Enfin, souvent, ça vient de ça. Sinon, je demanderai à la personne vraiment d'où vient le problème. Est-ce que c'est un problème de process, un problème de stratégie, de comment il aborde les choses, de méthode? Est-ce que c'est un problème de mindset? De la confiance qu'il a en lui quand il parle avec ses personnes, etc. Il faudrait identifier en fait la problématique pour pouvoir apporter des solutions adaptées.
Ce sera le mot de la fin pour cet épisode en tout cas. Simon, où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs et auditrices veulent en savoir plus sur ce que tu proposes ?
Carrément. Eh ben, à l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure pour ne pas se disperser sur les plateformes, eh ben, je ne suis que sur Instagram. @SimonBands. SimonBands.
Tu as un site ?
J'ai un site, mais je n'y partage rien. C'est là où il y a mes pages d'atterrissage, c'est là où il y a mes pages d'accueil et tout ça. Mais faudrait que je le relance. Non, il faudrait pas que je le relance, pas du tout. Parce que c'est plus du tout mon moyen d'acquisition, donc non. Qu'est-ce que je raconte ?
Voilà, vous venez d'avoir en direct ce qu'il faut faire quand il y a une idée parasite qui arrive et qui dit « oui, il faut », et puis après tu te dis « mais en fait non, pas du tout, c'est pas mon objectif, je n'ai aucun client par là, stop, on se refocus sur l'objectif et on repart ». Merci d'avoir partagé ce moment en micro que je ne couperai pas, que je vais garder à 100% comme ça parce que c'est une super opportunité pédagogique. Et puis Simon, je te dis à très bientôt. Merci énormément pour toute la valeur que tu as partagée avec les auditeurs et auditrices de l'illustratrice ambitieuse. C'était vraiment un super épisode.
Eh ben, je voudrais dire au revoir à tout le monde. Et j'avais envie de faire un dernier point là-dessus, ça vient de me venir maintenant. C'est qu'il n'y a que dans l'adversité qu'on peut être fier de ce qu'on fait. Donc, continuer à sortir en fait des sentiers battus, justement, et d'aller prospecter par rapport à ça. Et du coup, je voudrais te remercier, Marie, de m'avoir laissé le micro pour pouvoir partager ce message au monde. Et ça m'a fait vraiment super plaisir de partager ça avec toi.
Eh bien, c'était aussi un plaisir de t'accueillir. Tout le monde, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de créer du beau. Salut !
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non ? Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire. En faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut !